Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous voici donc de nouveau ensemble dans Lectures en liberté pour la suite et la fin, cette semaine, du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône. Dans l'histoire, du temps est passé. Mône et Yvonne de Galais sont mariés. Plus tard, j'ai su par le menu détail tout ce qui s'était passé. Dans le salon des Sablonnières, dès le début de l'après-midi, Mône et sa femme, que j'appelle encore Mademoiselle de Galais, sont restées complètement seules. Tous les invités partis, le vieux monsieur de Galais a ouvert la porte, laissant une seconde le grand vent pénétrer dans la maison et gémir. Puis il s'est dirigé vers le vieux Nancet et ne reviendra qu'à l'heure du dîner pour fermer tout à clé et donner des ordres à la métairie. Aucun bruit du dehors n'arrive plus maintenant jusqu'aux jeunes gens. Il y a tout juste une branche de rosier sans feuilles qui cogne la vitre du côté de la lande. Comme deux passagers dans un bateau à la dérive, ils sont dans le grand vent d'hiver, deux amants enfermés avec le bonheur. Le feu menace de s'éteindre, dit Mademoiselle de Galais, et elle voulut prendre une bûche dans le coffre. Mais Mône se précipita et plaça lui-même le bois dans le feu. Puis, il prit la main tendue de la jeune fille et ils restèrent là, debout, l'un devant l'autre, étouffés comme par une grande nouvelle qu'ils ne pouvaient pas se dire. Le vent roulait avec le bruit d'une rivière débordée. De temps à autre, une goutte d'eau, diagonalement, comme sur la portière d'un train, rayait la vitre. Alors la jeune fille s'échappa. Elle ouvrit la porte du couloir et disparut avec un sourire mystérieux. Un instant, dans la demi-obscurité, Augustin resta seul. Le tic-tac d'une petite pendule faisait penser à la salle à manger de Sainte-Agathe. Il songea, sans doute, c'est donc ici la maison tant recherchée. Le couloir jadis plein de chuchotements et de passages étranges. C'est à ce moment qu'il dut entendre. Mademoiselle de Galais me dit plus tard l'avoir entendu aussi. Le premier cri de Franz, tout près de la maison. La jeune femme alors eut beau lui montrer toutes les choses merveilleuses dont elle était chargée, ses jouets de petite fille, toutes ses photographies d'enfants, elle en cantinière, elle et Franz sur les genoux de leur mère qui était si jolie, puis tout ce qui restait de ses sages petites robes de jadis. Jusqu'à celle-ci que je portais, voyez, vers le temps où vous alliez bientôt me connaître, où vous arriviez, je crois, au cours de Sainte-Agathe. Mône ne voyait rien. Et n'entendait plus rien. Un instant pourtant, il parut ressaisi par la pensée de son extraordinaire, inimaginable bonheur. « Vous êtes là, » dit-il sourdement, comme si le dire seulement donnait le vertige. Vous passez auprès de la table et votre main s'y pose un instant. Et encore, ma mère, lorsqu'elle était jeune femme, penchait ainsi légèrement son buste sur sa taille pour me parler, et quand elle se mettait au piano. Alors Mademoiselle de Galais proposa de jouer avant que la nuit ne vînt. Mais il faisait sombre dans ce coin du salon et l'on fut obligé d'allumer une bougie. L'abat-jour rose sur le visage de la jeune fille augmentait ce rouge dont elle était marquée aux pommettes et qui était le signe d'une grande anxiété. Là-bas, à la lisière du bois, je commençais d'entendre cette chanson tremblante que nous apportait le vent, coupée bientôt par le second cri des deux fous qui s'étaient rapprochés de nous dans les sapins. Longtemps, Maune écouta la jeune fille en regardant silencieusement par une fenêtre. Plusieurs fois, il se tourna vers le doux visage plein de faiblesse et d'angoisse. Puis, il s'approcha d'Yvonne et, très légèrement, il mit la main sur son épaule. Elle sentit peser doucement auprès de son cou cette caresse à laquelle il aurait fallu savoir répondre. « Le jour tombe, » dit-il enfin. « Je vais fermer les volets. » « Mais ne cessez pas de jouer. » Que se passa-t-il alors dans ce cœur obscur et sauvage ? Je me le suis souvent demandé, et je ne l'ai su que lorsqu'il fut trop tard. Remords ignorés, regrets inexplicables, peur de voir s'évanouir bientôt entre ses mains ce bonheur inouï qu'il tenait si serré, et alors tentation terrible de jeter irrémédiablement à terre tout de suite cette merveille qu'il avait conquise. Il sortit lentement, silencieusement. Après avoir regardé sa jeune femme une fois encore, nous le vîmes de la lisière du bois fermée d'abord avec hésitation un volet, puis regarder vaguement vers nous, en fermer un autre, et soudain s'enfuir à toutes jambes dans notre direction. Il arriva près de nous avant que nous eussions pu songer à nous dissimuler davantage. Il nous aperçut comme il allait franchir une petite haie récemment plantée et qui formait la limite d'un pré. Il fit un écart. Je me rappelle son allure hagarde, son air de bête traquée. Il fit mine de revenir sur ses pas pour franchir la haie du côté du petit ruisseau. Je l'appelai « Maune ! Augustin !» Mais il ne tournait même pas la tête. Alors persuadé que cela seulement pouvait le retenir, « Franz est là » criai-je, « Arrête !» Il s'arrêta enfin, haletant. Et sans me laisser le temps de préparer ce que je pourrais dire. « Il est là ? » dit-il. « Que réclame-t-il ? » « Il est malheureux, » répondis-je. « Il venait te demander de l'aide pour retrouver ce qu'il a perdu. »« Ah ! » fit-il. « Mais sans la tête, je m'en doutais. » J'avais beau essayer d'endormir cette pensée-là. « Mais où est-il ? Raconte vite !» Je dis que Franz venait de partir et que certainement on ne le rejoindrait plus maintenant. Ce fut pour Maune une grande déception. Il hésita, fit deux ou trois pas, s'arrêta. Il paraissait au comble de l'indécision et du chagrin. Je lui racontai ce que j'avais promis en son nom au jeune homme. Je dis que je lui avais donné rendez-vous dans un an, à la même place. Augustin, si calme en général, était maintenant dans un état de nervosité et d'impatience extraordinaire. « Ah, mais pourquoi avez-vous fait cela ? » dit-il. « Mais oui, sans doute je puis le sauver, mais il faut que ce soit tout de suite, il faut que je le voie, que je lui parle, qu'il me pardonne et que je répare tout. Autrement, je ne peux plus me présenter là-bas. » Et il se tourna vers la maison des Sablonnières. « Ainsi, dis-je, pour une promesse enfantine que tu lui as faite, tu es en train de détruire ton bonheur. » « Ah ! « Si ce n'était que cette promesse-là, » dit-il. Et ainsi je connus qu'autre chose liait les deux jeunes hommes, mais sans pouvoir deviner quoi. « En tout cas, dis-je, il n'est plus temps de courir, ils sont maintenant en route pour l'Allemagne. » Il allait répondre, lorsqu'une figure échevelée, déchirée, hagarde, se dressa entre nous. C'était Mademoiselle de Galais. Elle avait dû courir car elle avait le visage baigné de sueur. Elle avait dû tomber et se blesser car elle avait le front écorché au-dessus de l'œil droit et du sang figé dans les cheveux. Mademoiselle de Galais, quand elle arriva près de Maud, me fit penser à un de ses enfants, un de ses pauvres enfants affolés. Je crois que tous ses amis, tout un village, tout un monde l'eût regardée, qu'elle fût accourue tout de même, qu'elle fût tombée de la même façon, échevelée, pleurante, salie. Mais quand elle comprit que Maud était bien là, que cette fois du moins il ne l'abandonnerait pas, alors elle passa son bras sous le sien, puis elle ne put s'empêcher de rire au milieu de ses larmes, comme un petit enfant. Ils ne dirent rien, ni l'un ni l'autre. Mais comme elle avait tiré son mouchoir, Maud le lui prit doucement des mains. Avec précaution et application, il essuya le sang qui tachait la chevelure de la jeune fille. « Il faut rentrer maintenant, » dit-il. Et je les laissai retourner tous les deux dans le beau grand vent du soir d'hiver qui leur fouettait le visage. Lui, l'aidant de la main au passage difficile, elle, souriant et se hâtant, vers leur demeure, pour un instant abandonnée. Mal assurée et en proie à une sourde inquiétude que l'heureux dénouement du tumulte de la veille n'avait pas suffi à dissiper, il me fallut rester enfermé dans l'école pendant toute la journée du lendemain. Le lendemain samedi, même incertitude. Le soir, je pris en hâte ma pèlerine, mon bâton, un morceau de pain pour manger en route et j'arrivai, quand la nuit tombait déjà, pour trouver tout fermé aux sablonnières, comme la veille. Un peu de lumière au premier étage, mais aucun bruit, pas un mouvement. Pourtant, de la cour de la métairie, je vis cette fois la porte de la ferme ouverte, le feu allumé dans la grande cuisine, et j'entendis le bruit habituel des voix et des pas à l'heure de la soupe. Ceci me rassura, sans me renseigner. Je ne pouvais rien dire ni rien demander à ces gens, et je retournai guetter encore, attendre en vain, pensant toujours voir la porte s'ouvrir et surgir enfin la haute silhouette d'Augustin. C'est le dimanche seulement, dans l'après-midi, que je résolus de sonner à la porte des sablonnières. Tandis que je grimpais les coteaux dénudés, j'entendais sonner au loin les vêpres du dimanche d'hiver. Je me sentais solitaire et désolé. Je ne sais quel pressentiment triste m'envahissait. Et je ne fus qu'à demi surpris lorsque, à mon coup de sonnette, je vis M. de Galais tout seul paraître et me parler presque à voix basse. Yvonne de Galais était alitée avec une fièvre violente et Maud avait dû partir dès vendredi matin pour un long voyage. On ne savait pas quand il reviendrait. Et comme le vieillard, très embarrassé, très triste, ne m'offrait pas d'entrée, je pris aussitôt congé de lui. La porte fermée, je restai un instant sur le perron, le cœur serré, dans un désarroi absolu, à regarder sans savoir pourquoi une branche de glycine desséchée que le vent balançait tristement dans un rayon de soleil.
Those days are over. You don't have to say.
En liberté, Denis Flageol.
Chaque jeudi et chaque dimanche, je vins demander des nouvelles d'Yvonne de Galais, jusqu'au soir où, convalescente enfin, elle me fit prier d'entrer. Je la trouvai assise auprès du feu dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait sur la terre et les bois. Elle n'était point pâle comme je l'avais imaginé, mais toute enfiévrée au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux et dans un état d'agitation extrême. Bien qu'elle parût très faible encore, elle s'était habillée comme pour sortir. Elle parlait peu, mais elle disait chaque phrase avec une animation extraordinaire, comme si elle eût voulu se persuader à elle-même que le bonheur n'était pas évanoui encore. Je n'ai pas gardé le souvenir de ce que nous avons dit. Je me rappelle seulement que j'en vins à demander avec hésitation quand Moon serait de retour. « Je ne sais pas quand il reviendra, » répondit-elle vivement. Il y avait une supplication dans ses yeux, et je me gardais d'en demander davantage. Souvent, je revins la voir. Souvent, je causais avec elle auprès du feu dans ce salon bas où la nuit venait plus vite que partout ailleurs. Jamais, elle ne parlait d'elle-même, ni de sa peine cachée. Mais elle ne se laissait pas de me faire conter par le détail notre existence d'écolier à Sainte-Agathe. Elle écoutait gravement, tendrement, avec un intérêt quasi maternel, le récit de nos misères de grands enfants. Elle ne paraissait jamais surprise, pas même de nos enfantillages les plus audacieux et les plus dangereux. Cette tendresse attentive qu'elle tenait de M. Le Galais, les aventures déplorables de son frère ne l'avaient point lassée. Le seul regret que lui inspira le passé, c'était, je pense, de n'avoir point encore été pour son frère une confidente assez intime, puisque au moment de sa grande débâcle, il n'avait rien osé lui dire non plus qu'à personne et s'était jugé perdu sans recours. Et c'était là qu'en j'y songe une lourde tâche qu'avait assumée la jeune femme, tâche périlleuse de seconder un esprit follement chimérique comme son frère, tâche écrasante quand il s'agissait de lier parti avec ce cœur aventureux qu'était mon ami le grand Maune. De cette foi qu'elle gardait dans les rêves enfantins de son frère, de ce soin qu'elle apportait à lui conserver au moins des bribes de ce rêve dans lequel il avait vécu jusqu'à 20 ans, elle me donna un jour la preuve la plus touchante, et je dirais presque la plus mystérieuse. Ce fut par une soirée d'avril désolée comme une fin d'automne. Depuis près d'un mois, nous vivions dans un doux printemps prématuré, et la jeune femme avait repris en compagnie de M. de Galais les longues promenades qu'elle aimait. Mais ce jour-là, le vieillard se trouvant fatigué et moi-même libre, elle me demanda de l'accompagner malgré le temps menaçant. À plus d'une demi-lieue des Sablonnières, en longeant l'étang, l'orage, la pluie, la grêle nous surprirent. Sous le hangar où nous nous étions abrités, contre l'averse interminable, le vent nous glaçait, debout l'un près de l'autre, pensifs devant le paysage noirci. Je la revois, dans sa douce robe sévère, toute pâlie, toute tourmentée. « Il faut rentrer, disait-elle, nous sommes partis depuis si longtemps, qu'a-t-il pu se passer ?» Mais à mon grand étonnement, lorsqu'il nous fut possible enfin de quitter notre abri, la jeune femme, au lieu de revenir vers les sablonnières, continua son chemin et me demanda de la suivre. Nous arrivâmes après avoir longtemps marché devant une maison que je ne connaissais pas, isolée au bord d'un chemin défoncé qui devait aller vers Prévrange. C'était une petite maison bourgeoise couverte en ardoise, et que rien ne distinguait du type usuel dans ce pays, sinon son éloignement et son isolement. À voir Yvonne de Galais, on eût dit que cette maison nous appartenait et que nous l'avions abandonnée durant un long voyage. Elle ouvrit, en se penchant, une petite grille et se hâta d'inspecter avec inquiétude ce lieu solitaire. Une grande cour herbeuse où des enfants avaient dû venir jouer pendant les longues et lentes soirées de la fin d'hiver était ravinée par l'orage. Un cerceau trempait dans une flaque d'eau. Dans les jardinets où les enfants avaient semé des fleurs et des pois, la grande pluie n'avait laissé que des traînées de gravier blanc. Et enfin nous découvrîmes, blottis contre le seuil d'une des portes mouillées, toute une couvée de poussins transpercés par l'averse. Presque tous étaient morts, sous les ailes raidies et les plumes fripées de la mer. À ce spectacle pitoyable, la jeune femme eut un cri étouffé. Elle se pencha et, sans souci de l'eau ni de la boue, triant les poussins vivants d'entre les morts, elle les mit dans un pan de son manteau, puis nous entrâmes dans la maison dont elle avait la clé. Quatre portes ouvraient sur un étroit couloir où le vent s'engouffra en sifflant. Yvonne de Galais ouvrit la première, à notre droite, et me fit pénétrer dans une chambre sombre où je distinguai, après un moment d'hésitation, une grande glace et un petit lit recouvert à la mode campagnarde d'un édredon de soie rouge. Quant à elle, après avoir cherché un instant dans le reste de l'appartement, elle revint, portant la couvée malade dans une corbeille garnie de duvet qu'elle glissa précieusement sous l'édredon. Et tandis qu'un rayon de soleil languissant, le premier et le dernier de la journée, faisait plus pâle nos visages et plus obscure la tombée de la nuit, nous étions là, debout, glacés et tourmentés, dans la maison étrange. D'instant en instant, elle allait regarder dans le nid fiévreux, enlever un nouveau poussin mort pour l'empêcher de faire mourir les autres. Et chaque fois, il nous semblait que quelque chose comme un grand vent par les carreaux cassés du grenier, comme un chagrin mystérieux d'enfant inconnu, se lamentait silencieusement. C'était ici, me dit enfin ma compagne, la maison de Franz, quand il était petit. Il avait voulu une maison pour lui tout seul, loin de tout le monde, dans laquelle il pût aller jouer, s'amuser et vivre quand ça lui plairait. Mon père avait trouvé cette fantaisie si extraordinaire, si drôle, qu'il n'avait pas refusé. Et quand cela lui plaisait, un jeudi, un dimanche, n'importe quand, Franz partait habiter dans sa maison comme un homme. Les enfants des fermes alentours venaient jouer avec lui, l'aider à faire son ménage, travailler dans le jardin. C'était un jeu merveilleux. Et le soir venu, il n'avait pas peur de coucher tout seul. Quant à nous, nous l'admirions tellement que nous ne pensions même pas à être inquiets. Maintenant, et depuis longtemps, poursuivit-elle avec un soupir, la maison est vide. Monsieur de Galais, frappé par l'âge et le chagrin, n'a jamais rien fait pour retrouver ni rappeler mon frère. Et que pourrait-il tenter ? Moi, je passe ici bien souvent. Les petits paysans des environs viennent jouer dans la cour comme autrefois, et je me plais à imaginer que ce sont les anciens amis de Franz, que lui-même est encore un enfant et qu'il va revenir bientôt avec la fiancée qu'il s'était choisie. Ces enfants-là me connaissent bien, je joue avec eux. Cette couvée de petits poulets était à nous. Tout ce grand chagrin dont elle n'avait jamais rien dit, ce grand regret d'avoir perdu son frère si fou, si charmant et si admiré, il avait fallu cette averse et cette débâcle enfantine pour qu'elle me les confiât. Et je l'écoutais sans rien répondre, le cœur tout gonflé de sanglots. Les portes et la grille refermées, les poussins remis dans la cabane en planches qu'il y avait derrière la maison, elle reprit tristement mon bras et je la reconduisis. Des semaines, des mois passèrent. Époque passée, bonheur perdu. De celle qui avait été la fée, la princesse et l'amour mystérieux de toute notre adolescence, c'est à moi qu'il était échu de prendre le bras et de dire ce qu'il fallait pour adoucir son chagrin, tandis que mon compagnon avait fui. De cette époque, de ces conversations, le soir, après la classe que je faisais sur la côte de Saint-Benoît-des-Champs, de ces promenades où la seule chose dont il eût fallu parler était la seule sur laquelle nous étions décidés à nous taire, que pourrais-je dire à présent ? Je n'ai pas gardé d'autre souvenir que celui, à demi effacé déjà, d'un beau visage amaigri, de deux yeux dont les paupières s'abaissent lentement tandis qu'ils me regardent, comme pour déjà ne plus voir qu'un monde intérieur. Et je suis demeuré son compagnon fidèle, compagnon d'une attente dont nous ne parlions pas. Durant tout un printemps et tout un été, comme il n'y en aura jamais plus. Plusieurs fois, nous retournâmes l'après-midi à la maison de Franz. Elle ouvrait les portes pour donner de l'air, pour que rien ne fût moisi quand le jeune ménage reviendrait. Elle s'occupait de la volaille, à demi sauvage, qui gîtait dans la basse-cour, et le jeudi ou le dimanche, nous encouragions les jeux des petits campagnards d'alentour, dont les cris et les rires, dans le site solitaire, faisaient paraître plus déserte et plus vide encore la petite maison abandonnée. Le mois d'août, époque des vacances, m'éloigna des sablonnières et de la jeune femme. Je dus aller passer à Sainte-Agathe mes 2 mois de congé. Je revis la grande cour sèche, le préau, la classe vide, tout parlait du grand Mône. Tout était rempli des souvenirs de notre adolescence déjà finie. Pendant ces longues journées jaunies, je m'enfermais comme jadis, avant la venue de Mône, dans le cabinet des archives, dans les classes désertes. Je lisais, j'écrivais, je me souvenais. Mon père était à la pêche, au loin, Milly dans le salon cousait ou jouait du piano comme jadis. Et dans le silence absolu de la classe, où les couronnes de papier vert déchirées, les enveloppes des livres de prix, les tableaux épongés, tout disait que l'année était finie, les récompenses distribuées, tout attendait l'automne, la rentrée d'octobre et le nouvel effort. Je pensais de même que notre jeunesse était finie et le bonheur manquait. Moi aussi j'attendais la rentrée aux Sablonnières et le retour d'Augustin, qui peut-être ne reviendrait jamais. Voilà, nous avons terminé pour ce soir la lecture du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône, que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.